Aude à l'accordéon sur RCN. Fred Richard et Jean-Marie Gessner.
Bonjour chers auditeurs, Fred Richard au micro. Nous sommes ravis avec mon ami Jean-Marie Gessner, musicien, accordéoniste passionné, de vous retrouver pour la première émission d'Ode à l'accordéon. Lina Bossati, partenaire musicale du grand Marcel Azola, à qui nous consacrons cette émission, a accepté d'être la marraine d'Ode à l'accordéon. Nous la remercions chaleureusement. Notre émission est née de la persévérance de Thomas, le directeur d'RCN, et de la confiance de Christophe Chevardet, son président. De ce dialogue entre l'expert de l'accordéon qu'est Jean-Marie et le passionné que je suis, nous allons vous emmener chaque mois à travers notre passion de l'accordéon pour une belle promenade. Jean-Marie Gessner, première question avant que je ne te présente à nos auditeurs. Tu as choisi le générique de l'émission. Pourquoi ce morceau ?
Eh bien, c'est un morceau qui sonne très parisien. C'est un morceau qui a été composé par Francis Lay, un grand accordéoniste qui a beaucoup travaillé pour des musiques de films. Et cette musique a servi de bande sonore de fond du fameux film tourné par Claude Lelouch qui s'intitule « Smic, Smac, Smoke ».
Et bien voilà, chers auditeurs, notre générique qui nous accueillera pour chaque émission, chaque mois, et pour cette première ce dimanche. Jean-Marie, tu es né un 9 novembre 49, c'était un mercredi à 18h30. La musique devient ta passion. Alors, pourquoi l'accordéon ?
Alors, l'accordéon, c'est une histoire qui remonte plutôt à ma mère. Ma mère, dans les années 30, s'était vue imposer le piano par ses parents. Et bien entendu, à l'époque, dans les années 30, l'accordéon, dans les années 30, c'était la guitare électrique des années 60. Elle voulait faire de l'accordéon. Et l'accordéon était un peu perçu comme un instrument de saltimbanque. C'est la raison pour laquelle on lui a imposé le piano. Et comme elle avait toujours la nostalgie de l'accordéon, elle a choisi cet instrument pour que j'en joue.
Et Jean-Marie, l'accordéon, c'est difficile ?
C'est un instrument qui est un peu ingrat parce que déjà on le porte, il a un certain poids. Il faut le manœuvrer pour faire de l'air, pour actionner les lames. Il y a deux claviers qu'on ne voit pas et deux claviers qui sont rigoureusement opposés l'un à l'autre, qui n'ont pas du tout la même composition des notes. Donc on joue quasiment en aveugle.
Donc, de cette passion, en 63, Bernard Braun devient ton professeur à l'école d'accordéon rue Gambetta à Nancy. 63 toujours, tu obtiens le premier prix avec coupe en catégorie débutant A le 20 octobre au casino qui s'appelait Casino Syndical de la ville de Luxembourg, ça ne s'invente pas.
Tout à fait.
En 64, tu intègres l'orchestre d'accordéon de Bernard Braun. En 69, naissance de l'orchestre Jean-Marie Gessner. 74 à 78, création du Musical Show Orchestra. En 78, retour à l'orchestre Jean-Marie Gessner jusqu'en 2002 et ça aura duré 33 ans. De 72 à 82, c'est important de le souligner, tu es le correspondant pour la Meurthe-et-Moselle de la revue L'Accordéoniste qui te permettra de rencontrer les grands. Mais avant de parler de Marcel Azola, Jean-Marie et son guitariste qui est avec nous dans le studio, Gilbert Goujon, que nous accueillons et que nous remercions, nous ont réservé une belle surprise. Ils vont nous interpréter Feuilles mortes. Jean-Marie à l'accordéon, Gilbert à la guitare.
Thank you.
Quelle ambiance, chers auditeurs, dans le studio. Merci Jean-Marie, merci Gilbert pour cette belle surprise et cette interprétation en direct. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de l'émission sur le grand Marcel Azzola, Ode à Marcel Azzola. Nous allons vous décliner la vie de Marcel Azzola depuis l'arrivée de sa famille en France. Jean-Marie.
Mandoliniste amateur, dirigeant une formation de 30 mandolines dans la ville lombarde de Bergame, en Italie du Nord, et vivant dans la maçonnerie, Giuseppe Azzola, ayant refusé d'être enrôlé dans les milices fascistes, s'est vu marqué d'une croix sur tous les registres.
Alors Giuseppe, c'est le papa.
C'est le papa. En conséquence, il ne put trouver d'emploi car grillé sur toute la ligne et dut s'exiler en 1922, comme beaucoup d'Italiens, avec sa femme Angelina et ses deux filles Florine et Denise. Dans le train qui les emmenait à Milan à Paris, une grosse dame s'assit malencontreusement sur la mandoline de Giuseppe, pulvérisant ainsi le dernier souvenir de son Italie natale. Marcel Azzola voit le jour à la maternité de la rue de la Chine dans le 20e arrondissement, le 10 juillet 1927. Deux sœurs, Monique et Henriette, suivront.
Alors, pour souligner et fêter comme il se doit la naissance de Marcel Azzola le 10 juillet 1927, ben on va écouter Rue de la Chine.
Tout à fait.
Retour à Ode à l'accordéon sur votre radio RCN sur 80.7. On était plein d'humour tout à l'heure parce que Jean-Marie nous dit ça tricote le Marcel.
Tout à fait.
Donc ce morceau Rue de la Chine, dans la rue de la maternité où il est né. La vie de Marcel, ça continue comment, Jean-Marie ?
Alors, chez ces amoureux de musique, donc ces familles italiennes qui avaient fui le fascisme, il fallait impérativement que les enfants fussent musiciens afin que leur vie fût émaillée de plaisir. La musique est omniprésente chez ces gens-là, elle est innée. C'est comme la philosophie, c'est un art qui ne s'apprend pas dans les universités. Les deux sœurs aînées de Marcel jouent du violon comme lui, et les deux cadettes du piano. Cependant, rien ne prédisposait le jeune Marcel à s'intéresser à l'accordéon, car cet instrument n'avait pas droit de cité dans la famille, par indifférence sans doute.
Jean-Marie, oui. Heureusement qu'il a persévéré, parce
tout
que
à fait.
Tout à l'heure, quand tu disais ça tricote le Marcel, sur le morceau qu'il nous avait interprété, tu dis qu'il faut au moins une heure d'échauffement.
Il faut une heure d'échauffement pour jouer un morceau comme ça, oui, tout à fait.
Ah ouais, donc vraiment, heureusement que Marcel Azzola a continué pour notre plus grand plaisir, pour l'accordéon.
Alors, travaillant comme maçon, son père, Giuseppe, avait sur son chantier, un ami dont le fils, Joe Rossi, jeune prodige de l'accordéon, jouait déjà à l'âge de 12 ans dans l'orchestre jazz symphonique de Jack Hilton en Angleterre.
Et vous verrez tout à l'heure, quand on parcourra la vie de Marcel Azzola et sa passion pour le jazz, reviendra ce nom de Jack Hilton, mais la suite tout à l'heure.
Que ton fils abandonne le violon, car des violonistes, il y en a partout. Il y en a trop, lui confie son ami. S'il apprend et travaille l'accordéon, il gagnera toujours sa vie avec ça. Autre cas donc le violon du jeune Marcel contre un accordéon, cet instrument si prometteur. Aux premières leçons de son professeur Attilio Bonomi succédèrent les premières affaires, guinguette, celle de Bobigny où son professeur l'invitait à monter sur scène, balmusette où il se rendit d'abord en observateur avec son père, dancings et cabarets où il prit goût aux musiques typiques et au jazz, brasserie enfin où il se fit un nom sur le répertoire de la musique classique, ouvertures célèbres et morceaux de bravoure qu'il étudia pendant la guerre avec le maître du genre, le grand Médard Ferrero. En 1935, Marcel a 8 ans. La France et une partie de l'Europe sont en pleine déconfiture. À la faillite des institutions succède le chômage. Certaines statistiques annoncent plus d'un million de chômeurs. L'accordéon des banlieues, instrument expressif à cette situation précaire, à la veille de cette grande révolution sociale marquée par l'obtention des congés payés, l'accordéon représente la fête et est un présent partout, dans les cours, les brasseries et les bars.
C'est vrai que l'accordéon et les congés payés, ça a fait un mariage de bonheur. Quand même.
Absolument. En 1941, Marcel entre de plein pied dans le métier. Connu et reconnu dans la profession, les engagements vont se succéder sans discontinuité. Sa carrière est un labyrinthe. Le café de Paris au Lila, dans un orchestre semi-professionnel, des musiciens amateurs, certes, mais qui assurent. Le Balto, bar-brasserie situé en face du cinéma Le Magique, le bouche-à-oreille, fait souvent office d'agent artistique et on se dispute le jeune prodige. En 1942, sur les recommandations de l'accordéoniste Jacques Hélène, Marcel est engagé au café de la Place Blanche, chez le Père Houlard, un ancien champion cycliste. C'est le fief des amoureux de la petite reine. On y rencontre tous les as des 6 jours, les stars des vélodromes et du bitume, l'accordéon et le cyclisme ont toujours fait bon ménage.
Ça c'est vrai Jean-Marie, tu me l'as toujours dit, le vélo, la petite reine et l'accordéon. On essayera dans un prochain Ode à l'accordéon, on en a plein puisque maintenant on va se retrouver chaque mois. On essayera de faire une émission, on va y réfléchir Jean-Marie, tu es d'accord sur l'accordéon et le vélo ?
Tout à fait d'accord.
D'accord. Tu disais tout à l'heure, c'est ce jeune prodige. C'est Azzola, c'est vraiment le prodige de l'accordéon, toi qui es accordéoniste.
C'est un grand. J'en parlerai un petit peu plus tard, de par aussi sa personnalité, sa gentillesse, le service qu'il consacrait aux autres.
Parce que rappelons, chers auditeurs, que Jean-Marie vous parle de Marcel Azzola, mais qu'il a personnellement connu. Ils ont été amis.
Tout à fait.
J'ai vu des photos. Allez, je résiste pas à l'envie. Jean-Marie, il m'a amené des documents, des courriers qui ont été adressés par des Jean Cocteau, qui écrit sur Marcel Azzola. Il dit « Nul n'a jamais changé la poésie en musique mieux que ne le fait Marcel Azzola, Jean Cocteau en 1963. » André Bourvil, cher Marcel Azola, je viens de recevoir votre disque. Il est formidable, j'ai voulu vous dire par téléphone combien il me plaisait, mais le service des abonnés absents m'ont dit que vous étiez absent. Je vous rappellerai un de ces prochains jours. Dans cette attente, je vous adresse mes compliments et mon admiration pour ce disque qui sera parmi les plus grands dans ma discothèque. Merci et bravo encore, bien cordialement, Bourvil. Alors, tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas que Bourvil était...
accordéoniste.
Eh bien, voilà.
Tout à fait. Il a même joué dans des films où il tient le pupitre d'accordéoniste.
Alors, revenons à la vie de Marcel Azola. Le 11 novembre 42...
Alors, le 11 novembre 42, l'armée allemande envahit la zone libre. Donc, ça, c'est la grande catastrophe. Les empêcheurs de valser en rond, comme on les appelait, les boches en langage populaire, sont sur tous les fronts. Ce sera le tournant de la guerre, le service du travail obligatoire, le fameux STO. Tout individu valide est embrigadé d'office pour aller travailler dans les usines allemandes. Les musiciens sont aussi concernés. L'accordéoniste Joe Rossi est convoqué et reçoit son ordre d'intégration. Il convoque Marcel et lui demande de le remplacer dès le lendemain à la Croix de Malte, car n'ayant pas l'intention de se plier aux injonctions nazies, il fuit. Marcel se produira jusqu'à la fin de la guerre dans bon nombre d'établissements, notamment dans le réseau des brasseries où il fallait être reconnu pour assurer, comme il se dit dans le métier. Il apprendra le bandoneon en une nuit, je dis bien en une nuit, et fera ses débuts en tant que bandoneoniste en 1946.
Alors Jean-Marie, c'est quoi le bandoneon ?
Alors le bandoneon est un instrument à hanches, comme l'accordéon,
d'accord,
mais qui se joue, les mains du bandoneoniste ne sont pas libres, elles sont serrées au poignet. Le déplacement de la main est très faible. En plus, on le porte sur les genoux. Donc, il faut écarter les jambes quand on le replie. Écarter les jambes quand on le replie et serrer les jambes quand on le déplie.
Ah oui, c'est en
c'est
plus...
un instrument, c'est un instrument...
c'est une séance de gym, quoi.
Qui, au départ, était fait... en fait, c'était un orgue portatif, au départ.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Voilà ce qu'est le bandoneon. Donc, happé par le tourbillon des concours, on lui germe l'espoir d'une sélection à la Coupe mondiale de l'accordéon. Il s'y prépare sérieusement. Il sera bien entendu couvert de lauriers partout où il concourra. Après la guerre, le nom de Marcel commence à circuler. En 1953, la voix de son maître, la marque aux petits chiens et le label Riviera de la toute jeune maison Barclay se disputent le jeune accordéoniste. Sur la marque au petit chien, il accompagne les chanteurs maison tels que Gilbert Bécaud et le grand Mouloudji.
Eh bien alors, c'est le moment d'écouter les bancs publics de Mouloudji, accompagné par Marcel Azola.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car, à la vérité, ils sont là, c'est nos droits, pour accueillir quelque temps des amoureux débutants. Les amoureux qui se becotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se becotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement et le cousin lui fumant dans un bien-être obscur et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand le ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur l'un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Alors, chers auditeurs, nous allons... est venu aussi le moment de ce témoignage de notre marraine. Nous allons avoir en direct Lina Bossati, qui est... Lina est indissociable de l'exceptionnelle carrière de Marcel. Elle a fait des études musicales à l'École normale de Paris, dirigée par Alfred Cortot. Au CNM de Paris, elle obtient à 17 ans un premier prix de piano dans la classe d'Yves Nat. En musique classique, les places sont chères. Alors, comme beaucoup de musiciens, Lina est en quête de contrat. À 18 ans, elle est engagée après audition par le chef d'orchestre Denis Tuvéry, accordéon, bandeau, trompette, dans une grande brasserie parisienne. Sa prestation fut si concluante que Denis l'épousera. Et Lina a accompagné Marcel Alazola. Ce morceau que nous venons d'entendre avec Mouloudji, Lina joue. Et c'est un immense bonheur d'avoir Lina comme marraine. C'est, je lui ai dit, et nous allons l'entendre et l'accueillir, c'est notre trèfle à quatre feuilles, notre porte-bonheur. Bonjour Lina.
Bonjour Frédéric. Oui, bonjour.
Un grand merci encore de nous accompagner et d'être notre marraine.
Et j'en suis très heureuse.
Merci.
Très heureuse.
Je vais passer la parole à Jean-Marie qui est impatient d'échanger avec vous Lina, et encore un grand merci.
Oui, bonjour Lina.
Bah
écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir sur cette radio. Bien entendu, tu as peut-être quelques anecdotes à nous raconter à propos de Marcel.
À propos de Marcel, je veux déjà dire que cette émission est une belle idée. Quelle belle idée! Il en serait réjoui, hein, lui qui a donné toute sa vie à la musique et à cet instrument. Et avec lequel il s'est créé une personnalité, voilà. Il aimait son public et possédait ce talent essentiel à un artiste, savoir communiquer ses émotions. Voilà ce que je pourrais dire déjà.
Très bien,
mais
merci.
C'est quand même une fameuse idée,
hein, ah oui,
cette émission. Voilà, et vous allez faire des heureux.
Eh bien écoute, le plaisir est partagé, parce que faire plaisir aux gens, c'est notre premier plaisir.
Super.
Et on partage cette passion, Lina. On va entendre deux morceaux, Interrogation et Indifférence, dans lequel vous accompagnez Marcel. Vous pouvez nous dire un petit mot.
Vous avez bon goût, hein.
Vous pouvez nous dire un petit mot de ces deux morceaux, Interrogation.
Ben, Interrogation, bien sûr, avec Pascal Groff, ça a été écrit, bien sûr. C'était un jazzman aussi. Et il se voyait très souvent se téléphoner sans cesse pour justement trouver aboutir ses idées, et qui ont fait ces jolies valses, parce que ça c'était des valses jazz vraiment avant la lettre.
Et voilà. Puis l'autre morceau Indifférence, alors quand on s'est eu la première fois, quand on a préparé l'émission, Lina, j'ai dit Indifférence, oui, alors qu'il y a une telle complicité musicale entre vous deux.
Oui, mais on a beaucoup travaillé, hein, ensemble, donc il y a une espèce de connivence et de routine qui s'installe et qui fait qu'on est très à l'aise, et ça s'entend.
Un merveilleux dialogue entre vous deux.
Voilà.
Lina, je voulais vous remercier encore d'être notre marraine pour toutes les autres odes à l'accordéon d'émissions qui suivront. Du fond du cœur, un grand merci.
Merci à vous, et j'en suis très flattée. Et je souhaite une bonne et longue vie à cette ode à l'accordéon.
Merci Lina. On va entendre maintenant, chers auditeurs, Interrogation et après Indifférence. Chers auditeurs, vous avez pu entendre Interrogation, ce morceau qui illustre la partie compositeur de la vie de Marcel Azola, accompagné par la grande Lina Bossetti, que nous remercions encore. Merci Jean-Marie d'avoir une telle amie comme Lina, et qui est notre marraine. Nous allons entendre maintenant Indifférence, et puis après tu nous parleras du parcours de Marcel avec les différents labels.
Tout à fait.
C'est fabuleux ce morceau, fabuleux. Moi, je suis un fan absolu.
C'est aérien.
C'est aérien, exactement, Jean-Marie. Alors, on va revenir à notre grand Marcel Azola. Et alors, Marcel et les labels, tu peux nous en dire un mot ?
Alors, il enregistre de la musique à danser chez Barclay. Oui. Plutôt typique, Marcel, donc, c'est-à-dire passo, tango, boléro. En 1954, il remporte le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros pour Surprise Partie ou Mirliton. Mais bientôt, le label Festival le débauche en lui promettant deux passages hebdomadaires à 12h40 précises sur Radio Luxembourg dans les fameux Rois de l'accordéon, sponsorisés par les potages Roico. Marcel passe les lundis et jeudis, Louis Laudrich les mardis et vendredis, André Verschuren les mercredis et samedis. Cette émission fut pour moi le déclic qui m'incita à apprendre l'accordéon.
Avec des grands pareils, je te comprends.
Oui, d'autant plus que nous n'allions pas à l'école le jeudi. Et le jeudi, j'écoutais Marcel Azola.
Mais c'était une bonne récréation.
Voilà, voilà. Donc, pour répondre à une demande croissante des bals de société, Marcel monte son propre orchestre. En marge des bals, il compose, participe à des musiques de films, environ 80 films. On peut citer Mon Oncle, Playtime, Trafic, Jacques Tati, Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sauté, Les Aristochats avec Maurice Chevalier.
Oh, c'est exceptionnel ça.
Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier.
Tout le monde veut devenir un cat.
Les Uns et les Autres de Claude Lelouch, L'Emmerdeur avec son grand copain Brel, film d'Edouard Molinaro.
Ah, Jacques Brel.
Milou en mai de Louis Malle, Le Bal d'Ettore Escola, où il n'y a pas du tout de dialogue, ce sont uniquement des morceaux qui viennent rythmer. L'Étoile du Nord avec Simone Signoret de Pierre Granier de Fer. Il accompagne également en tournée les stars de la chanson, comme Yves Montand en 1956 dans les pays de l'Est. Il enregistre en studio pour d'autres chanteurs, Gréco, Lemarque, Piaf, Delpech, Le Forestier, Vian, Bachelet, et la liste n'est pas close.
Que des petits débutants.
Tout à fait. Voilà. Des petits gens, des petites personnes sympas. Chez Festival, comme toutes les autres maisons de disques, on a l'habitude d'enregistrer en version orchestrale les tubes potentiels de ces chanteurs. Donc il faut enregistrer vite et sans arrangement. Et ça, ils ne veulent que la mélodie, rien que la mélodie. Et Marcel, qui a le goût de la perfection, qui fréquente le club Saint-Germain, se fait taper sur les doigts dès qu'il tend vers le jazz ou s'autorise un brin de sophistication.
Alors, chez Marcel, il y a ce goût de la sophistication et puis cet amour du jazz, mais on y reviendra. Il y a aussi, et comment ne pas parler du répertoire classique. Marcel Azola est le répertoire classique, c'est un moment important aussi de sa vie et qui comptait pour lui.
Tout à fait. Au début des années 60, Marcel enregistre deux disques de musique classique en interprétant des pièces de Bach, Chopin, Mendelssohn, Rossini, Rimsky-Korsakov.
On va écouter un morceau que tu as choisi qui s'appelle Tarentelle accordéon. Tarentelle est vraiment exceptionnelle, Jean-Marie. Donc, le répertoire classique pour Marcel Azola, c'est l'occasion d'échapper à la sonorité du registre.
Oui, tout à fait.
Musette.
Dans l'accordéon, si on écoute des morceaux des années 30, l'accordéon a un son, ce qu'on appelle le son criard, un son que je qualifierais de désaccordé, puisqu'on élargissait le spectre sonore des lames, ce qui fait que ça résonnait. Donc c'était pour Marcel l'occasion d'échapper à la sonorité de ce fameux registre musette qui lui était souvent imposé et de faire valoir des timbres plus purs et moins agressifs comme le registre basson qu'il utilise plus volontiers. D'ailleurs, je souligne que le morceau que nous avons interprété en début d'émission avec Gilbert et moi-même, j'ai un registre basson à l'accordéon, et c'est un accordéon Cavagnolo, le même que Marcel utilisait. Donc, on est vraiment chez Azola.
Tu veux me dire que l'instrument que j'ai sous mes yeux, là, qui est dans le studio,
oui.
Marcel avait le même.
Ah, il avait le même, il a travaillé sur Crozio jusqu'en 1967 et à partir de 67, il est passé chez Cavagnolo. D'ailleurs, moi j'ai démarré Crozio et j'ai basculé chez Cavagnolo aussi. J'ai suivi le maître.
T'as suivi le maître. Alors tu me disais que même au bal,
oui.
Marcel jouait toujours du classique ?
Absolument. Dans chaque bal qu'il animait, il réservait toujours une pièce classique en cours de soirée.
C'était avant tout un musicien.
C'était son petit concert au milieu du bal.
Alors je te propose, tu nous as sélectionné un autre morceau classique, prélude numéro 3 en do dièse majeur. C'est quand même exceptionnel, chers amis, vous en conviendrez, ce prélude numéro 3 en do dièse majeur, c'est, oui, exceptionnel. Alors Jean-Marie, merci d'avoir fait toute cette sélection et ce travail avec passion de choix des morceaux. J'espère, chers auditeurs, que vous prenez autant de plaisir que nous en studio de parcourir la vie de ce grand Marcel Azola. Alors Marcel Azola accompagne les plus grands, Jean-Marie.
Tout à fait. Il accompagne, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, les grands chanteurs, Montand, Gréco, et la liste est très 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 longue.
Mais parmi tous ces grands, il y en a un où il y a eu quelque chose, une communion entre eux, c'est Azola et Jacques Brel.
Alors, en 1966, donc, Marcel quitte le label Festival, revient chez Barclay. Bon, il se trouve que Barclay était un grand ami de Jacques Brel. Le 23 septembre 1968, 23 septembre, jour de l'automne.
23 septembre, quelques jours après, je venais au monde.
Wow.
En octobre 68.
Eh bien voilà. Donc le 23 septembre 68, que s'est-il passé ? Jacques Brel, qui avait rencontré Marcel parce qu'ils étaient tous les deux passionnés d'aviation.
Oui.
Donc, ils faisaient de l'avion ensemble. Et Jacques Brel l'appelle et lui dit « Écoute, Marcel, j'ai besoin de toi. Je vais bientôt enregistrer l'album qui s'intitule « J'arrive ». Alors, bien sûr, ils répètent les morceaux, ils font la liste. Brel loue le studio. La séance d'enregistrement se passe comme elle devait se passer. Et à la fin, il restait un peu plus de 6 minutes de studio.
Ah oui, alors tu m'as appris ça, Jean-Marie, et il faut que tu apprennes ça, ou ils le savent certainement, mais ceux qui ne le savent pas, nos auditeurs, qu'on louait des minutes de studio.
Tout à fait, et ça coûtait très cher, très très cher, parce qu'aujourd'hui, on peut, avec un petit peu de matériel, faire un studio chez soi.
Oui.
Avant, ça n'était pas
possible. Pas possible.
C'était pas possible.
Donc là, il reste 6 minutes de studio, fortune.
Il reste 6 minutes de studio, mais il y a le trompettiste américain Chet Baker qui passait derrière, qui attendait dans le couloir et qui faisait les 100 pas. Brel eut l'idée, pour rentabiliser la location du studio, d'enregistrer vite fait, comme il le disait, une chanson au tempo de valse.
Oui, j'aime bien le vite fait, ça,
oui.
Ça va.
Ah, c'était Brel, ça.
Oui, c'était Brel. Oui.
Donc, quand on accompagne à l'accordéon un chanteur, il faut toujours jouer discret, peu de notes, mais bien placé, disait Marcel.
Ouais.
Très bien placé, ne pas couvrir le chanteur. Donc Marcel proposa une valse au style jazzy. « Non, non, bien au contraire, » lui répondit Brel. « Je veux que tu m'envoies un délire de notes, comme de la dentelle. Du fait du manque de temps, cette valse fut une grande partie d'improvisation.
D'accord.
D'ailleurs, Marcel, quand on lui parlait de Vesoul, il fronçait un peu les sourcils. Il disait, on aurait pu mieux faire quand même. Enfin, bon. Alors, une première prise a eu lieu. Puis Brel changea quelques paroles. Une seconde, celle qui sera sur le disque, c'est où Brel lâche le fameux « Chauffe Marcel ». Vous avez reconnu, bien entendu, Vesoul.
Alors, avant qu'on entende Vesoul, je voudrais vous lire la lettre que Jacques Brel a adressée en octobre 77 à Marcel. Grâce à toi, Jean-Marie, j'ai la copie de ce courrier. « Cher Marcel, me voici pour quelques jours au repos et j'ai enfin le temps de te dire merci pour le superbe travail que tu as bien voulu m'offrir. J'espère avoir encore la joie d'enregistrer avec toi, très sincèrement, Jacques Brel. » On va entendre maintenant Vesoul. Ce Vesoul, c'était vraiment un chauffe Marcel. Hein. Je redis aux auditeurs ce que voulait Brel. Je veux que tu m'envoies un délire de notes comme de la dentelle. Ben là, il était servi. Hein.
Ah oui, absolument. C'était un magasin de dentelle.
C'est génial, génial. Alors, nous continuons sur Marcel Azola, chers auditeurs. J'espère que vous prenez toujours encore plus de plaisir à découvrir ou redécouvrir le grand Marcel Azola. Alors Jean-Marie, défenseur d'un accordéon plus ouvert à d'autres styles, il arrive sur quelle période de sa vie et ce qui lui tenait à cœur ?
C'est dans les années 70. D'ailleurs, je vais revenir légèrement en arrière. Tu as lu la lettre que Brel avait adressée à Marcel.
Oui.
C'est une des dernières lettres.
Oui, parce que 77.
Brel se sentait malade. Il y a eu, bien entendu, le dernier album de Brel qui a suivi. Qui a précédé cette lettre de remerciement, qui s'est appelée Les Marquises.
Oui.
Et après, Brel est tombé malade et n'a plus remis les pieds dans des studios. Voilà. Oui. Donc Brel s'est arrêté là. Et malheureusement, Brel s'est envolé pour le paradis des amoureux de la chanson en 1978. Oui, alors donc, Marcel était un défenseur de l'accordéon, plus ouvert à d'autres styles. Donc il a poursuivi son idée. de rendre à cet instrument ses lettres de noblesse. Avec Joe Rossi, j'ouvre une petite parenthèse, puisque j'ai parlé en début d'émission que Joe Rossi était parti au STO en Allemagne.
Oui.
Et Joe Rossi a eu un accident. Il a eu un morceau d'acier qui lui est rentré dans l'annulaire droit. On a dû l'amputer. C'était un grand virtuose. Il a dû se refaire à l'accordéon avec 4 doigts seulement au lieu de 5.
Réadapté.
Il a gardé sa vélocité, sa dextérité. Et pour moi, c'était une admiration que de voir Joe Rossi jouer de l'accordéon.
Oui, parce que quand on n'a jamais joué de l'accordéon, mais j'imagine qu'il n'y a aucun doigt inutile.
Et surtout l'annulaire, les 3 premiers, l'index, le majeur, l'annulaire, bien sûr, le petit doigt, hein, mais celui-ci est très, 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 très important. Donc, Marcel, comme je le disais précédemment, défenseur de l'accordéon, il a créé avec Joe Rossi, Joe Baselli, qui a été l'accompagnateur de Patachou,
oui,
pendant des décennies.
La grande Patachou.
Et André Assier, qui était un très grand accordéoniste, qui ont donc œuvré dans cette tâche difficile. Ils ont fondé dans les années 70 l'Académie de l'accordéon qui se situait Porte Saint-Martin.
À Paris. Et on en arrive au dernier moment de la vie de Marcel Azzola que nous avons souhaité aborder, ce féru de jazz. Lina, tout à l'heure, nous disait... Il voulait des valses jazzy, donc c'était quelque chose qui démangeait Marcel, le jazz.
C'était sa marque de fabrique.
Tu peux nous en dire plus ?
Alors, pour Marcel, il l'a dit, hein, moi je ne fais que transcrire ce qu'il m'avait confié. Le troisième millénaire sera jazz ou ne sera pas ? Ça fait penser à un grand philosophe qui avait dit ça.
Exactement.
Tel en avait décidé Marcel. Des temps forts, même si l'essence de la musique de jazz donne priorité au contretemps, vont marquer l'aube de cette nouvelle temporalité. En réalité, la charnière millénaire sera duale. Marcel, sur un chemin parallèle, tracé depuis plusieurs décennies, favorise et persévère avec bonheur dans sa démarche du superbe duo Lina Bossati-Marcel Azzola.
Alors, on va écouter un morceau de cette période jazzy, Double Scotch. Thank you. Oui, il peut y avoir des applaudissements parce qu'en écoutant Double Scott, Jean-Marie, je me rends compte encore plus de la latitude et de toute cette étendue de répertoire que peut accompagner l'accordéon. C'est vraiment un instrument magnifique.
Tout à fait.
Alors, le jazz, des expériences jazzistiques de conjointement menées avec les plus grands, tu peux nous continuer à nous en dire un petit mot?
Grappelli, bien entendu, avec qui il a joué. Christian Escoudé, d'ailleurs, qui tenait la guitare dans le morceau que nous venons d'entendre. Lockwood, qui malheureusement nous a quittés très jeunes. Django Reinhardt. Tillmans, et Danny Doris, qui était un vibraphoniste. Et puis la liste n'est pas exhaustive avec les différentes structures orchestrales de ces musiciens. Marcel arpente les lieux mythiques où se produit toute l'élite du jazz des années 2000, à Paris, en province, en Suisse, à Oslo, à Venise, à Cuba, à New York, à Pékin, etc., etc.
On s'approche tout doucement, j'allais dire malheureusement, mais de la fin de l'émission, on n'y est pas encore. Mais on va évoquer la javanaise, parce que c'est quelque chose qui nous parle à toi comme à moi. On va l'évoquer, je pense pas qu'on pourra la passer en entier, oui. Mais on va l'évoquer. Je voulais pas qu'on loupe la javanaise, donc on va en écouter un petit morceau.
Avec Guy Chiroku.
Alors Jean-Marie, il y a aussi une grande rencontre pour Marcel Azola le 3 septembre 2016. Oui, Marcel est sollicité par
Gérard Depardieu.
Alors non pas pour une musique de film, mais pour
L'accompagnement du comédien dans une reprise de deux chansons de Barbara qui s'intitule Drouot et Solitude, parce que Gérard Depardieu a assisté Barbara quand elle était malade. Oui. Et ils s'aimaient beaucoup tous les deux et ils voulaient lui rendre hommage. Donc, 24 juin 2017, pour fêter son 90e anniversaire, Benoît Dutertre le mettra une fois de plus à l'honneur dans son émission radiophonique Étonnez-moi Benoît. Le mardi 8 janvier, moi je m'en rappellerai toujours, puisque
en 2019,
j'étais chez lui, c'était la dernière visite que je lui faisais, j'ignorais que c'était notre dernière rencontre. Et le 21 janvier, Marcel déposait son Cavagnolo, il allait rejoindre tous ses amis partis avant lui au royaume des belles mélodies. Même s'il s'en défendait, il était en matière d'accordéon la référence mondiale. Sans cesse à l'écoute de l'autre, mais jamais avare d'un conseil, d'un encouragement, voire d'un compliment. Il a influencé par son néo-style de la décennie 50-60, plusieurs générations d'accordéonistes à pratiquer l'accordéon autrement. Il fut, au long de sa vie, la délicatesse et l'élégance personnifiées.
Alors, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission Ode à l'accordéon. Nous espérons avec Jean-Marie vous avoir fait passer un bon moment en vous faisant partager notre passion de l'accordéon. Merci à Gilbert, un grand merci à Jean-Luc à la technique. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour une émission consacrée à Joe Privat.